Nous voulons maintenant construire des modèles pour analyser l'activité de l'ensemble des acteurs économiques résidant dans un territoire sous l'autorité d'un État. Le cadre analytique pour construire ces modèles est celui de la comptabilité nationale. La comptabilité nationale décrit la formation et la circulation du produit intérieur brut, le trop fameux PIB. Le PIB mesure les flux monétaires à l'intérieur d'un territoire pendant une période donnée, une année par exemple. Dans ce cadre analytique, nos acteurs sont trois acteurs collectifs: les ménages, les entreprises et l'État. Ménages et entreprises ont entre eux des relations de marché. Les comportements de ces acteurs sont les suivants. Les ménages vendent leurs services de travail aux entreprises et leur apportent les fonds qu'ils épargnent. Ils touchent donc des salaires, des intérêts et des dividendes. Les entreprises vendent aux ménages des biens finaux, c'est la consommation finale des ménages, et à elles-mêmes des biens d'investissement. L'État prélève des revenus sur les ménages et les dépense à faire produire par les entreprises des biens publics, mis gratuitement à la disposition des ménages. C'est la consommation publique. L'État, dans ce cadre analytique, n'est donc qu'un État fiscal pourvoyeur de biens publics. Nous allons suivre sur ce schéma le lien entre la comptabilité d'entreprise et la comptabilité nationale. Ce lien passe par la valeur ajoutée des entreprises. En effet, la somme des valeurs ajoutées des entreprises, au sens large, y compris les administrations publiques par exemple, est par définition égale au PIB, la production intérieure brute. Au sein de l'entreprise, la valeur ajoutée, nous l'avons vu au chapitre 8, est partagée si on laisse de côté pour l'instant les prélèvements de l'État, que l'on considérera portés uniquement sur les ménages. Donc la valeur ajoutée dans l'entreprise est partagée entre revenus du capital et revenus directs et indirects du travail. Mais on sait qu'une part des revenus du capital est laissée dans l'entreprise sous forme de réserve. C'est, avec les amortissements, la capacité d'autofinancement de l'entreprise ou cash flow. L'État ponctionne l'impôt sur les ménages. Viennent ensuite les opérations financières. Les ménages qui ont reçu les salaires, intérêts et dividendes n'en consomment en biens de consommation finaux qu'une partie. Et ils en épargnent une autre partie qu'ils prêtent aux entreprises d'une part et à l'État d'autre part. Le PIB, initialement somme de la valeur ajoutée des entreprises et mesure de la production intérieure, est devenu ainsi la somme des revenus disponibles de nos trois acteurs. Quant aux capacités de financement des entreprises, il peut être augmenté par crédit bancaire, donc par injection monétaire. On sait que cette injection monétaire se partagera entre une augmentation de la production, s'il y a des capacités de production disponibles, et une inflation, c'est-à-dire une augmentation du PIB en valeur, mais pas en volume. Ce revenu disponible est utilisé par les trois acteurs de la manière suivante. L'État fait produire des biens publics, mis gratuitement à la disposition des ménages. Les ménages consomment et les entreprises investissent et produisent. Sachant que la consommation des ménages et l'investissement des entreprises peuvent être augmentés par une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire des importations de biens finaux et de biens d'investissement qui l'emportent sur les exportations. Dans ce cas, la consommation intérieure, grâce aux importations nettes, est supérieure à la production intérieure. Dans ce cas, il faudra donc que les résidents du territoire aient emprunté à l'étranger pour pouvoir financer ces importations nettes, comme on va le voir au tome 6.